Musique maintenant sur France Culture, Musica 83 plus précisément, en direct de Strasbourg, nous retrouvons Jean-Loup Grattan.
Strasbourg, en automne, couleur, Varèse, passion du jeu,
passion.
Entendre et voir. Strasbourg, en automne, Musica 83.
Un drame musical instantané, Ziga Virtov, L'homme à la caméra, une rencontre à Musica 83, une création, une musique composée pour la circonstance, avec la diffusion simultanée de ce film, extraordinaire au demeurant, une découverte pour ma part, et un travail que vous avez réalisé, j'imagine, sur plusieurs mois, à la fois pour l'ajustement à l'image, qui on le verra n'est pas une illustration au premier degré, mais un travail plutôt... semble-t-il, au niveau de la conception, de la conception de la forme.
C'est-à-dire qu'au début, on a commencé par, quand on a choisi le Virtov, on a commencé par voir le film, lire tout ce qu'on a pu sur Virtov, puisque Virtov était compositeur aussi, et qu'il avait, inventé le laboratoire de Louis, comme le Cinéœil, comme le Kino Pravda, que c'était un inventeur extraordinaire, et tous ces textes théoriques nous ont servi pour élaborer la partition sonore du film.
Vous pouvez préciser ces inventions, là, en quoi ça consistait ?
Oh, ça, c'est un peu trop technique, mais disons que la chose la plus importante pour L'homme à la caméra, c'était le premier long-métrage, je crois, qui ne soit pas un long-métrage de fiction, et qui soit une œuvre à la fois documentaire, la vie à l'improviste. Et c'était un peu ça que Virtov voulait saisir.
De poussière, je ne vois strictement rien. Moi, le technicien a disparu, des flammes qui s'élèvent, moi juste une petite loupiote qui passe. Le technicien, tu as eu mal ? Non, il n'a rien. Oh, merde !
Improviste, et ça me fait penser par une analogie tout à fait sommaire, à improviser, ce qui est un élément tout à fait essentiel dans votre travail musical que vous établissez depuis plusieurs années maintenant.
De toute manière, on n'aime pas beaucoup le terme improvisé, on appelle ça plutôt composition instantanée, pour bien signifier qu'il y a composition dans tous les cas. Et là, on a fait appel à différentes possibilités, les possibilités d'écriture traditionnelle, les possibilités d'écriture appelant autre chose que le papier comme support, enfin bon. Et le problème, c'était aussi d'intégrer le travail du trio à une formation plus importante.
Vous reniez l'improvisation, mais par contre, Bernard Vité, il y a quand même dans votre parcours personnel, une histoire avec l'improvisation, même si le terme actuellement...
On peut dire que j'ai pratiqué l'improvisation longtemps, mais d'une façon progressive, j'ai abandonné l'idée. Et surtout dans la mesure où improvisation signifie implicitement variation, développement d'un sujet, développement d'un thème. Je me suis depuis longtemps éloigné progressivement de cette notion-là et définitivement avec ma rencontre avec Jean-Jacques et Francis. En
fait. Et on dit plutôt qu'on improvise le thème plutôt qu'improviser sur le
thème.
Oui,
c'est ça, oui.
Dans cette représentation, dans ce travail, il y a deux choses qui sont assez frappantes en liaison avec le cinéma, de méthode de travail. C'est d'une part le montage, la notion de montage, et d'autre part la notion de... Il y a ces tableaux qui se succèdent, des tableaux au sens visuel du terme, et au sens musical aussi.
D'abord, on n'a pas que ça comme lien avec le cinéma, on a aussi une écriture collective, parce que faire du cinéma, c'est une équipe, c'est une création collective. D'écrire à trois la musique, il y a déjà dans la méthode quelque chose qui a à voir avec ça, une complémentarité, et puis elle vise à la fiction, c'est-à-dire à la crédibilité. C'est pour ça qu'on arrive toujours à s'entendre, même si quelquefois on n'est pas d'accord au départ, on arrive toujours à s'entendre parce que c'est la crédibilité du produit qui nous guide.
et ces impulsions visuelles vont se transformer, au gré de chaque tempérament, par des impulsions auditives.
Il y a des rapports de dysachronie, on pourrait dire, plutôt que d'anachronisme, parce qu'effectivement, on est dans une situation là où les choses glissent, qui sont évidentes de par les citations musicales que vous pouvez faire. Quand j'entends citation, c'est par exemple au début, lorsque le chef d'orchestre arrive, c'est le premier tableau, vous faites une petite parodie, je dirais, d'une petite réalisation orchestrale d'aujourd'hui, façon disco, façon rock, avec une petite batterie. Bon, ça, c'est la dysachronie par excellence. Mais il y a la lecture ironique, cette fois-ci, qu'on fait. Et au début, d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ambigu, parce qu'on se dit, tiens, c'est peut-être aussi une moquerie. Puis après, ça glisse vers d'autres choses. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont contemporaines, qui nous concernent aujourd'hui, avec quand même aussi la grosse différence que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce film-là représente un peu l'apogée des années de grâce révolutionnaire en Union soviétique, et qu'actuellement, en 1983, on n'a peut-être pas tout à fait la même... les vacances, la joie de vivre... il me semble que c'est pas spécialement contemporain. Ça serait plutôt, au contraire, en ce moment, l'amorosité, la remise en cause de la croissance, le travail à la chaîne.
Oui. Bon, mais tout n'est pas perdu. Tout espoir n'est pas perdu, c'est ce que je veux dire.
Bon, moi, je pense que c'est une lecture critique, bien sûr, du film. Ça ne nous empêche pas de penser que... j'ai envie de dire que tous les trois, on ne va pas se morfondre sur la crise. Et que un des spectacles qu'on aimerait produire dans les temps proches, c'est un spectacle sur la crise, mais pas pour se morfondre, mais pour dire comment sortir de la crise. Jusqu'en 81, on était carrément ce qu'on appelle parano. Et puis on s'est rendu compte en 81 qu'on ne pouvait pas continuer parce que c'était une position intenable. On avait des titres comme « Trop d'adrénaline nuit »,« Rideau »,« Pas besoin d'espérer pour des entreprendre poisons, ni de réussir pour persévérer ».
Tous nos morceaux portaient des titres de poison.
Mais enfin, des choses comme ça. On s'est dit non, maintenant, on n'est plus là-dessus, on n'est plus sur la défensive, on est sur l'offensive, c'est-à-dire sur la construction, sur la création. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on a commencé à produire des albums, des disques comme « À travail égal, salaire égal », Les bons comptes font les bons amis, des choses qui étaient plus affirmées. J'ai envie de dire que le choix du Vertov est quelque chose de peut-être un peu volontariste, mais c'est une volonté à l'intérieur de l'orchestre, en plus une volonté politique à l'intérieur de l'orchestre, de construire quelque chose, de ne pas s'arrêter là, en se disant, en baissant les bras parce que la crise est internationale, ou de se morfondre de la situation des musiciens entre eux, des rapports de pouvoir qui existent dans un orchestre. Tout ça est présent dans la musique, on a essayé de... Et quand je dis dans la musique, également dans les rapports que nous entretenons avec les autres musiciens de l'orchestre.
C'est brut, tout brut, au milieu, pas d'aboum, de l'orchestre.
Les ombres et la lumière.
Exactement le droit de vivre.
Car bien sûr, on mettra en fuite des innocents et le responsable, ce sera vous.
Il y a un rapport avec l'institution aussi. Effectivement, vous parlez de 81, mais il me semble moi aussi que depuis 81, on vous voit un petit peu plus dans les festivals institutionnels, avec l'argent de l'État. Bon, puisque vous en parlez, bon, est-ce que ça représente aussi une mutation sur le plan politique importante, qui pour vous modifie votre travail professionnel? Vous n'êtes plus des marginaux maintenant. Être dans un festival autour de Varèse,
on n'a jamais eu envie d'être des marginaux.
On n'a jamais non plus la prétention d'être des marginaux. Mais on peut dire simplement que le grand orchestre a pu survivre, et il existait avant que nous soyons subventionnés, mais il a permis, cette subvention a permis à l'orchestre de survivre peut-être, mais s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu autre chose. Trompette, je ne veux pas la trompette. Et si demain, il n'y a plus de subvention, il faudra bien inventer quelque chose d'autre. Ça faisait des années qu'on travaillait et qu'on produisait des disques, des spectacles, de musique, de théâtre musical, de cinéma accompagné. Je veux dire, ça fait déjà depuis maintenant 1977 ou 1978 qu'on a produit soit en trio, soit en grand orchestre, des spectacles de ce type. Je pense que ce n'est pas vraiment le problème du soutien de l'État. C'est très bienvenu, heureusement.
Des extraits de Chambre Noire, deuxième partie du spectacle donné le 5 octobre dans la salle du Maillon à Strasbourg par un drame musical instantané, illustrait cet entretien avec Jean-Jacques Birger, Bernard Vité et Francis Gorget. Ziga Vertov, l'homme à la caméra. Il n'y aura pas de dialectique entre le film et le parcours musical du drame instantané. L'histoire est celle d'une société qui cherche, à travers ses innovations, des nouvelles valeurs. Le travail devient le lot d'une nécessité révolutionnaire. Nous sommes en 1929. La cité nouvelle, unité sociale, devient urbaine. Les trams, la communication. L'homme à la caméra, c'est l'individu voyeur, nous, un public qui s'installe au début du film, du concert. L'image, avant d'être elle-même assemblée, travaillée, sera une optique transversale à l'agitation collective, une lecture idéologique de la question d'un groupe jamais formulée. De la pensée explicative, mécaniste, l'usine, à l'alibi des congés payés, du cirque de la plage à l'amertume du temps. Peut-être une aventure, celle de la production. Sûrement pourquoi, sans doute un doute. Une transposition. Nous sommes en 1983. On regarde Ziga Vertov comme un luxe, déjà de musée. Le drame musical est aussi dans la salle, un public, des étiquettes, une institution. Un renversement, c'est la musique qui est live et l'image qui est support. Sans contresens, sans pléonasme non plus. La musique devient maintenant un film à elle seule. Au plaisir de nos projections, on dira de nos images sonores, de notre écran mental, à la lumière de nos désirs.
Thank you. la limitation, la recherche identifie soi-même, c'est bien ennuyeux. Si on se retrouve seul, on se retrouve pas.
Pas le mal, mais le bien qui engendre la culpabilité.
Pas le mal, mais le gendre la
il dit qu'il fait plus froid à zéro qu'en dessous de zéro. Ses parents sont des enfants. Ses enfants, drôles d'oiseaux, ne rêvent pas de liberté. Ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine.
Thank you. Thank you. Le coup est parti et il est mort. Dans le Gard ce matin, un chasseur qui voulait réparer une roue crevée à sa voiture a ouvert son coffre pour prendre un cric. Devant le coffre se trouvait le fusil chargé. Dans la manœuvre, le coup est parti et lui aussi est mort.
Supprimer la séparation entre...
Oui, vous avez entendu ce succès.
Une émission en direct.
Vous
ne
croyez plus à rien ni personne. Padam, padam, padam. Que la balle se rend pour la maison.
Violent n'était qu'un prétexte.
Tu fais les pistes,
Thank you.
Un drame musical instantané, L'homme à la caméra, partition sonore originale pour le film de Dziga Vertov, concert enregistré le 5 octobre à la salle du Maillon à Strasbourg, avec Jean-Jacques Birger, Francis Gorget, Bernard Vité, Yoann Lebert, Hélène Sage, Magali Vialfond, Patrice Petit-Didier, Yves Robert, Jacques Marugue, Gérard Siracusa, Bruno Barré, Nathalie Baudouin, Marie-Noël Sabatelli, Didier Petit et Geneviève Cabane. Prise de son Jean Bréchet, assisté de Jean-Claude Grimblat et Caroline Recure, mixage Michel Bossy, Cyril Bécure, régisseur Alain Garotin, assistante de réalisation Marie-France Alléon.
Strasbourg, en automne, Musica 83.
Prochain rendez-vous avec Musica 83 à 16h05. Nous retrouverons Jean-Loup Graton et Jacques Dupont.